CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès, mais aussi auteur de la super série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors Sylvain, l'entrepreneur de légende du jour est donc une entrepreneuse. C'est une femme qui a réussi à s'implanter rapidement dans le monde des cosmétiques. On parle évidemment d'Estée Lauder. Et elle a eu le mérite d'avoir le culot de s'être frottée aux géants bien établis du secteur. Et elle l'a fait avec succès. Découvrons donc son histoire.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, Estée Lauder est née en 1908 à New York, mais elle est née sous le nom de Joséphine Esther Menster.
Oui, donc c'est la fille d'immigrés juifs hongrois, avec une histoire un petit peu compliquée, puisque alors sa mère était venue aux États-Unis avec son premier mari, qu'elle n'a pas retrouvé. Quoi. Elle était venue à un décalage, un petit peu après son premier mari. Il est d'abord venu, elle a voulu le rejoindre, elle n'a pas retrouvé. Il y a une histoire un petit peu compliquée. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il s'est caché? Est-ce qu'il est décédé entre-temps? Enfin, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'elle a rencontré un autre homme, Max Menzer, avec qui elle a eu 4 enfants, dont Estée Lauder, qui, comme tu l'as dit, s'appelle Joséphine Esther Menzer. Et personne ne savait vraiment trop bien prononcer son nom, elle s'est mise à se faire appeler Estée, parce que c'était plus rapide, ça faisait un peu chic aussi, elle trouvait. Et donc,
Joséphine, il ne faisait pas d'effort hein, quand même.
Parce oui, mais que, c'était
Joséphine Esther.
Je pense que c'était le Esther plutôt qui devait coincer.
Ils exagèrent.
Ou peut-être qu'elle voulait trouver un prétexte pour changer son nom, je ne sais pas. Oui. Mais toujours est-il qu'elle se fait appeler dès l'enfance.
Hein, Estée, donc.
Dès qu'elle va à l'école, elle se fait appeler Estée. Et donc le prénom restera, même si ce n'est pas son prénom de naissance.
Elle est depuis la naissance, enfin depuis toute petite, passionnée par la beauté et l'élégance.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui s'explique pas trop. Hein. Depuis toute petite, son truc, c'est le maquillage, la mode, l'élégance, l'apparence. Elle va cultiver ça toute sa vie. Alors au début, c'est pas forcément bien vu de sa famille, qui est une famille juive assez traditionnaliste, assez religieuse. Et on est encore au début du XXe siècle, donc le maquillage, c'est encore réservé aux prostituées.
Ah, mais c'est pas répandu, oui.
C'est pas encore répandu. Donc on va dire que ses centres d'intérêt sont un peu en rivalité avec son milieu familial.
Mais son milieu familial est quand même un peu inspirant.
Oui, alors il est inspirant à deux titres. D'une part parce que son père a une petite échoppe, un magasin, et qu'elle, sur son temps libre, en dehors de l'école, elle aide son père dans le magasin familial. Donc elle apprend un petit peu sur le tas, la vente, les rudiments de comptabilité, de gestion des stocks, etc.
Le goût du commerce.
Le goût du commerce, voilà. Donc elle met un petit peu un premier pied dans l'entreprise et la vente. Et l'autre élément familial déterminant, c'est un oncle qui était chimiste et avec qui, en fait, elle va travailler, bricoler, pourrait-on dire, dès qu'elle est gamine, en fait, pour travailler à des cosmétiques. Et donc, en fait, elle n'a jamais fait d'études de chimie à proprement parler, mais elle a appris un peu sur le tas ce qu'elle a à savoir, en fait. Elle a une sorte de formation par la pratique grâce à cet oncle avec qui elle s'entendait très bien. Ils étaient très proches. Et donc un oncle bienveillant, voilà, qui a pris au sérieux, disons, ses idées et ses projets d'adolescente. Et donc, elle va pouvoir, dès l'adolescence, dès le lycée, en fait, commencer à faire ses premières crèmes, ses premières cosmétiques chez elle, hein, de manière totalement artisanale, avec l'aide donc, de cet oncle chimiste.
Et elle les vend au lycée ?
Voilà, elle commence à les vendre à des copines, elle fait les premiers soins chez elle. Donc, c'est une activité qui n'est pas encore déclarée, hein, qui est totalement artisanale. Mais voilà, dès le début, elle a cette fibre-là, cette double fibre, à la fois en direction des cosmétiques et de la beauté, et de l'entrepreneuriat.
Et c'est la rencontre de son futur mari qui va un peu propulser la chose.
Oui, donc elle rencontre donc un certain Joseph Lauder hein, en 1930. Ils auront 2 enfants qui d'ailleurs reprendront, quoi, aujourd'hui même ont repris la direction de l'entreprise. Alors, Elle aurait pu, grâce à ce mariage, arrêter de travailler, puisque son mari a une bonne position dans les affaires et gagne très bien sa vie. Elle aurait pu être une femme au foyer assez aisée, vivant une vie de la petite bourgeoisie new-yorkaise. Ce qui aurait été assez commun, d'ailleurs, à l'époque. Hein. On est encore dans la première moitié du XXe siècle. Mais elle, c'est une femme, disons, de tête, de caractère, qui n'a aucune envie d'être femme au foyer. Et donc, elle élève ses enfants et en parallèle, elle continue à essayer de faire des nouvelles crèmes, à essayer de les vendre. Donc, c'est encore assez artisanal à ce moment-là. On est dans les années 30.
Et là, elle a repris le nom de son mari. Du coup, maintenant, c'est Estée
oui,
Lauder.
Oui, voilà. Donc, elle s'est mariée avec Joseph Lauder. Donc, maintenant, elle s'appelle Estée Lauder, qui devient le nom de sa marque. Hein. Elle commence à vendre ses produits sous le nom Estée Lauder. Et petit à petit, elle va associer son nom, sa personne, qui va se faire connaître petit à petit, à ses produits, comme d'autres l'ont fait, comme Elena Rubinstein, comme Elisabeth Arden, comme Chanel en France. Donc c'est, disons que sa personne, en fait, va devenir petit à petit, au fil de sa réussite, un argument commercial pour ses produits.
Donc les débuts sont plutôt modestes de sa petite entreprise, mais elle a quand même une grande volonté.
Oui, alors elle a un désir de réussite très important, de un peu de revanche sociale aussi, parce qu'elle est dans une famille très, très modeste, donc de montrer qu'elle est capable de réussir, et c'est aussi un tempérament, c'est pas du tout quelqu'un qui a le tempérament de femme au foyer, de se laisser entretenir par un mari. Elle a des idées, elle y tient, elle veut montrer que ses idées marchent. Donc son entreprise, qui est dans les années 30 une toute petite PME, hein, c'est des productions encore artisanales, mais qui fonctionnent assez bien malgré la crise économique des années 30.
Ah oui, les années 30, c'est la crise.
C'est la crise, mais elle parvient à s'en sortir parce qu'elle est sur des, disons, un positionnement de gamme moins cher que les autres grandes marques, avec une qualité qui est quand même tout à fait honorable. Donc un rapport qualité-prix qui est plutôt bon, ce qui fait que malgré la crise, en fait, elle parvient à faire grandir modestement encore à ce moment-là son entreprise. Ça va être la guerre, et avec la guerre, il va y avoir tout un tas de femmes qui vont travailler dans les usines, notamment d'armement, hein, pour remplacer les hommes qui ont été mobilisés.
Donc elles vont gagner de l'argent.
Voilà, et donc c'est une époque où il y a des femmes qui vont commencer à gagner un petit peu d'argent, et donc qui vont se faire un petit plaisir avec des cosmétiques. Donc c'est une période pour l'économie en général qui est assez difficile, mais pour elle, vu son créneau, qui est, alors on va pas dire porteuse, mais en tout cas, qui permet de développer un petit peu son entreprise.
Donc ni la crise des années 30, ni la guerre ne freinent son entreprise, et pourtant, le succès d'Esther va avoir des conséquences plutôt néfastes sur sa vie de couple.
Oui, en fait, son mari prend un petit peu ombrage, on va dire, de la réussite, qui est encore modeste, mais de la réussite de sa femme. Alors, il y a un divorce en 1939, mais ils vont finir par se remarier trois ans plus tard.
Il ne garde pas de nom, alors.
Voilà.
Elle peut continuer à l'utiliser.
Elle peut continuer à utiliser son nom. Et son mari va devenir, disons, un peu son bras droit. Hein. Il va mettre de côté son orgueil de mari qui s'imagine qu'il doit gagner plus que sa femme. Et va aider, en fait, Estée à développer son entreprise. Et c'est vraiment après la guerre que l'entreprise, qui était encore une petite PME, va vraiment devenir une entreprise, d'abord une grosse PME, puis une ETI, ensuite une multinationale. Donc c'est vraiment les années, on va dire les années 40-50, qui vont voir le succès de l'entreprise vraiment se transformer.
Tu l'as dit, après la guerre, donc la société passe à une vitesse supérieure. Ils décident de tout investir et ils misent sur le bouche à oreille, ce qui ne se faisait pas à l'époque.
Oui, alors ils ont un pari assez audacieux, hein, au lendemain de la guerre. Donc en 1946, ils fondent The Estée Lauder Company. Donc avant, il y avait une entreprise qui était déjà créée, mais le nom de l'Estée Lauder n'était pas encore associé aussi explicitement à l'entreprise et aux produits. Et ils misent toutes les économies de la famille pour construire une usine un peu plus, on va dire un peu plus moderne, un peu plus automatisée. Donc c'est un pari un peu audacieux, c'est un peu acquis tout double, mais ça va fonctionner, notamment grâce à la qualité des produits, mais aussi grâce à la personnalité, à la persévérance, à la gouaille d'Estée Lauder, qui va apporter plusieurs innovations. Notamment, elle va distribuer des échantillons gratuits,
ah.
Ce qui ne se faisait pas, puisqu'à l'époque, on se disait, mais si on donne gratuitement le produit, les gens ne vont pas l'acheter, quoi. Ils vont juste attendre de l'avoir gratuitement. Et elle pense les choses différemment. Elle se dit, mes produits sont bons, il faut les faire connaître.
C'est elle qui invente l'échantillon gratuit.
Alors oui, qui invente. Alors,
le popularise.
Qui le popularise. Il y a plusieurs inventeurs. Mais enfin, c'est une des pionnières de cette idée de l'échantillon gratuit. Et comme tu le disais, pour miser sur le bouche à oreille. L'idée, c'est de se dire, une fois que les gens auront vu que mes produits sont vraiment... très bon pour leur niveau de prix, ils vont en parler autour d'eux et donc comme ça, parce qu'elle est totalement inconnue, hein, au début. Aujourd'hui on connaît, mais là il faut vraiment voir que c'est une toute petite entreprise.
Et à l'époque, les géants en face d'elle, ils font beaucoup de communication.
Voilà, il y a alors les principaux sur le marché new-yorkais, c'est Elena Rubinstein, Elisabeth Arden, qui sont des entrepreneuses qui sont de la génération avant elle, mais qui sont vraiment établies sur ce marché-là. Donc elle, à cette époque-là, c'est un petit poussé. Donc elle essaie un peu de se faufiler entre les géants du secteur. Et donc, elle y parvient grâce à la qualité de ses produits, à des techniques marketing un peu innovantes, assez très insistantes, hein, presque agressives. Elle n'hésite pas à rappeler des journalistes, des directeurs de magasins. Elle organise, par exemple, des tests juste à côté d'un grand magasin pour ses produits. Et quand les dames lui demandent où on peut trouver leurs produits, elle dit « allez au magasin là ». Toutes les dames y vont, demandent le produit. Le produit n'est évidemment pas en rayon. Et après, elle va voir le magasin en disant « j'ai ce super produit ». Évidemment, on lui propose de le référencer. Donc elle a des stratégies comme ça un petit peu culottées. Elle ne cesse pas démonter par la difficulté, disons.
Elle fait des bons promos aussi.
Elle fait des bons promos, voilà, ça va un peu dans la même idée que les échantillons gratuits, hein, ce qui à l'époque n'était pas commun, hein, de dire, mais si tu donnes à des prix bradés tes produits, les gens ne les achèteront plus, et ça c'est vraiment pour essayer d'enclencher une dynamique de bouche à oreille qui va fonctionner.
Oui, tu le dis, cette stratégie agressive est payante, et rapidement les ventes augmentent.
Les ventes augmentent de plus en plus et il va y avoir un autre bond de l'entreprise. C'est en 1953, elle se lance sur les parfums, puisque là, elle était plutôt sur les crèmes de beauté. Youth Dew, je le prononce sûrement très mal, ça veut dire rosé de jeunesse. Donc c'est son premier parfum qui va être un succès fulgurant, notamment grâce à son niveau de prix. Il est presque 10 fois moins cher que les autres parfums des grandes marques, puisque...
À l'époque, c'est le luxe.
Voilà, à l'époque, le parfum, c'était vraiment un produit de luxe. Et elle, sa stratégie, c'est de démocratiser le parfum, donc d'aller sur des niveaux de prix beaucoup moins élevés. D'ailleurs, c'est sa stratégie d'une manière générale, mais sur le parfum, c'est encore plus marqué. Et c'est un succès fulgurant. Hein. Elle fait partie de ceux qui ont, du coup, démocratisé le parfum. Et elle va comme ça se faire connaître. Et en fait, en se faisant connaître, elle joue sur sa notoriété à elle, sur son image. Elle fréquente beaucoup les journalistes, elle les contacte, elle les relance. Et pour utiliser son image un peu de femme entrepreneuse, audacieuse, moderne un peu, puisque elle n'est pas restée femme au foyer, mais elle a pris les rênes de son entreprise et de son destin professionnel. Donc voilà, pour associer son nom à son entreprise et en faire un moyen de promotion pour encore plus se faire connaître.
Tu l'as dit, hein, ça c'est une réussite grâce notamment à la super idée de mettre le parfum moins cher. Et à la fin des années 50, elle est rejointe dans l'aventure par son fils.
Oui, alors son premier fils va l'épauler à la tête de l'entreprise. Son deuxième fils, qu'elle a eu un peu plus jeune, viendra aussi dans l'entreprise. Ça devient vraiment une affaire familiale entre elle, ses fils, son mari. Ce qui lui permet de développer encore plus l'entreprise, de se développer à l'international pour la première fois en 1960, hein, avec son parfum qui est vendu aux Galeries Lafayette à Paris. Et ensuite, elle va s'étendre dans d'autres pays, et notamment en URSS dès les années 80, où elle va commencer à percer, alors modestement, parce qu'on est encore, c'est encore un pays communiste, mais elle va modestement percer sur le marché soviétique dès les années 80. Et en parallèle, elle lance des nouvelles gammes de produits. Donc la gamme Renutritive, hein, les crèmes pour visage qu'elle avait développées, et testé sur elle, hein, puisque c'était ça aussi sa stratégie de faire des cosmétiques avant tout pour elle, et si l'un était satisfaite, de les vendre. Une gamme pour hommes, parfums et cosmétiques pour hommes, Aramis, ça s'appelait, les premiers parfums.
Ça se faisait pas, ça, à l'époque.
Ça se faisait pas, et ça va mettre du temps à prendre. La société, les clients masculins sont pas encore disposés à y aller, mais c'est une des précurseurs des cosmétiques et de la parfumerie pour hommes. Et elle va aussi faire une gamme hypoallergénique, hein, donc qui réduit les risques d'allergie, qu'elle va appeler clinique. Donc là, avec un positionnement presque médical, avec des vendeuses, avec des blouses, pour montrer que c'est pas juste une cosmétique, c'est presque un médicament. Ce qui était un marché, le marché hypoallergénique, qui était assez délaissé par les autres marques, qui se disaient c'est un trop petit marché. Et donc elle, vu qu'elle est encore, à cette époque, un assez petit acteur du secteur, elle va un peu se glisser là où elle peut, dans les secteurs qui lui restent. Et comme ça, petit à petit, brique par brique, elle va construire vraiment une multinationale de la cosmétique.
Et vers la fin des années 60, elle, en plus, elle devient une célébrité.
Elle devient une célébrité, donc elle en joue, hein, elle le fait exprès, elle contacte les journalistes, elle n'hésite pas à exagérer un petit peu son passé, à dire qu'elle a fréquenté la cour de Vienne en Autriche, à mentir sur son âge, etc. Donc c'est, voilà, elle est là pour défendre son entreprise et le narratif autour de son entreprise, plus que forcément être très précise sur sa biographie. Ça devient une personnalité en vue. Elle fréquente des politiques, elle fréquente des célébrités, des têtes couronnées. Elle passe progressivement la main à ses fils tout au long des années 70, et donc elle s'occupe plus de l'aspect, on va dire, communication, relationnelle, fréquenter un peu tout le gratin de la bonne société américaine, voire internationale, ce qui sert évidemment son entreprise, mais voilà, dès les années 70, c'est plus elle qui est opérationnelle.
Elle aura une vie un peu mondaine. Et
voilà, une vie mondaine qui lui plaît très certainement, mais qui sert aussi son image et donc son entreprise.
Elle inculque quand même à ses fils le souci du détail. Hein.
Oui, alors il y a des tests en aveugle, avec par exemple des clients mystères. C'est vrai que c'est une très grosse travailleuse qui est du genre à rien laisser au hasard, à ne partir qu'une fois, jusqu'au bout de la nuit, ne partir que quand tout est parfait, quand tout lui convient. Et oui, c'est un goût du travail, de la méticulosité qu'elle inculque à ses fils pour que quand ils reprennent l'entreprise, ils soient prêts, ils soient disposé à essayer de pousser l'entreprise le plus loin possible et en faire un très grand groupe mondial qui reste une affaire familiale, même si elle est entrée en bourse. Hein,
en 95. En
95. Hein, elle a toujours jalousement gardé le contrôle de son entreprise. Donc elle a mis l'entreprise en bourse pour lever des capitaux, mais elle a fait en sorte que la famille garde plus de 50% des parts.
Donc le noyau est familial.
Voilà, le noyau familial. Donc voilà, ça reste une entreprise familiale, même si, évidemment, en grandissant, ce côté familial s'est un petit peu dilué.
Décès de Estée Lauder en 2004, elle était presque centenaire.
Oui, en 2004, donc presque centenaire, ça faisait déjà une trentaine d'années qu'elle ne dirigeait plus l'entreprise en tant que telle, et donc elle passe la main à ses fils, à la génération suivante, et ça reste une entreprise familiale et un grand nom des cosmétiques mondiales.
Estée Lauder laissa donc derrière elle une entreprise, tu l'as dit, encore référente dans le monde de la cosmétique, et c'est une des dernières à ne pas avoir été rachetée par un grand groupe.
En effet, c'est toujours le côté familial, indépendant, qu'elle avait chevillé au corps et qui est toujours la marque de cette entreprise.
Merci Sylvain.
Merci à toi.
Cette histoire, elle est tirée de ton livre « Entrepreneuse de légende ». Donc c'est sur le même principe que ta série de livres « Entrepreneurs de légende », sauf que là, c'est que des portraits féminins. On peut le retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies. Je vous rappelle que ce podcast aussi, on peut le trouver dans toutes les bonnes plateformes d'écoute, sur CDI Podcast aussi. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous partager. Continuez à le faire, ça nous fait plaisir. On vous dit à très bientôt et d'ici là, écoutez-nous.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.